Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Ce soir, je recevrai Mathieu Dussouyer qui viendra nous présenter la nouvelle édition de la programmation de l'Opéra National de Lorraine. Mais avant, nous allons faire un petit tour dans les Vosges à Matincourt. Bonsoir Christine Marchal.
Bonsoir Dominique Bréda.
Je suis heureux de vous accueillir dans Tempo Classique. Vous êtes adjointe au maire de Matincourt et vous avez eu la bonne idée de m'inviter à venir jouer dans le cadre des Journées du Patrimoine ce samedi 16 septembre à 18h à la Basilique de Matincourt avec mon ami le hautboiste Jean-Philippe Mathieu. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler un petit peu de Matincourt. Ainsi que de ce que vous proposez pour ces Journées du Patrimoine. Alors, vous pouvez nous situer Matincourt?
Donc, Matincourt est un petit village vosgien, comme vous l'avez dit, d'environ 860 habitants. Il est situé près de Mirecourt, la capitale de la Lutterie. Il est à peu près à moins de 30 km de Vittel et d'Épinal.
D'accord. Voilà. Et il y a des tas de choses à voir à Matincourt.
Ah oui, Matincourt, il est riche de son patrimoine culturel et culturel. Mais aussi, c'est un joli village, attractif, dynamique. Il a une île, c'est sa particularité.
Ah oui, c'est quoi ça, cette histoire?
Oui, une île. Donc, c'est un endroit qui est quand même bucolique, qui est cher aux matincurtiens, qui se trouve entre le canal et la rivière Le Madon. C'est un lieu privilégié, j'ai envie de dire, pour passer un moment de détente, pique-niquer, mais aussi faire la fête. Et puis chercher l'ombre aussi en ce moment, parce qu'il y a nombreux platanes centenaires qui sont magnifiques. Donc c'est vraiment un lieu où on s'y sent bien.
Très bien. Alors, à côté de ça, on connaît surtout Matincourt pour sa basilique.
Et oui. Matincourt, c'est vraiment il a sa notoriété depuis la fin du XVIe siècle, avec son curé Pierre Fourier. Alors, c'est Pierre Fourier, faut parler déjà de Pierre Fourier avant de parler de la basilique.
Oui, bien sûr.
Donc, je vous en dis quelques mots. Donc, c'était donc le curé de la paroisse qui s'était engagé dans une aventure novatrice et éducative avec la religieuse Alix Leclerc.
Oui.
Et ils ont créé ensemble la congrégation Notre-Dame. Donc, cette congrégation va permettre aux jeunes filles qui manquaient d'éducation jusque-là de suivre justement une éducation générale et d'aller à l'école. Donc, la première école s'est créée dans un petit village voisin à Poussé. Et puis après, ils ont très vite manqué de place. Donc, l'école a été transférée à Matincourt et développée ensuite dans le monde entier. Il y a plusieurs congrégations dans le monde entier.
Et à Poussé, ils ont gardé juste la foire, alors?
Eh oui.
Oui.
Mais il y a toujours une petite plaque quand même, première école de Poussé de la congrégation Notre-Dame. Il reste une petite trace historique.
D'accord. Alors, voilà. La basilique, voilà. Maintenant.
Alors, la basilique, justement, après, donc, en vue de la canonisation de Pierre Fourier, qui a été, qui est en date du 1897, le curé Adol de l'époque a voulu faire construire la basilique, une basilique pour recevoir tous les pèlerins, parce qu'il y avait beaucoup de pèlerinage et pour accueillir tout le monde. Donc cette basilique, on fête aujourd'hui son 170e anniversaire. Donc c'est la date de l'inauguration, plus exactement.
D'accord.
7 juillet 1853.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette basilique?
Ah, cette basilique, en tant que matincurtienne, je dirais qu'elle est charmante.
Oh,
elle est magnifique.
Oui,
elle a une voûte très étoilée. Elle est inscrite au monument historique. Ces vitraux de Gabriel Loire qui sont magnifiques. C'est des vitraux qui ont la particularité, le verre est teinté dans la masse. Ça fait que ce verre renvoie une lumière. C'est une lumière très lumineuse, je vais faire.
Oui.
C'est pas très, très français ce que je dis, mais enfin, ça ne veut rien.
On comprend bien.
Le sens, avec des couleurs, donc une lumière intense, je veux dire, avec une lumière, des couleurs chatoyantes, voilà, au fil de la journée. Et l'autre particularité, c'est que les joints sont faits en ciment.
Ah voilà. Oui, d'accord.
Voilà.
Oui, c'est rare, ça.
Oui, c'est rare, ça.
Mm-hmm.
Et donc, puis bien sûr, il y a plein de pièces qui sont classées au monument historique. Il y a des bancs, les bancs qui sont en fonte, ça c'est très particulier aussi.
Ah oui, il doit faire froid en hiver.
Eh oui. la serre, qu'est-ce qu'il y a aussi Et puis bien sûr, il y a les reliques de Saint-Père Fourier. Hein,
d'accord, bah oui, forcément.
Maintenant, c'est une basilique.
Voilà.
Ouais, forcément.
Donc l'idée, c'est de venir la voir ces journées du patrimoine. Donc.
Alors,
il y a des visites.
Oui, il y a des visites. Bien sûr, elles sont proposées par l'association Histoire et Patrimoine de Matincourt, mais aussi les bénévoles de la paroisse. Mm-hmm. Donc, ils nous proposent samedi et dimanche à 15h30 et à 17h. Donc, il y a déjà... à 15h30 uniquement. Voilà. Donc, la visite de la basilique avec une visite un petit peu centrée plus particulièrement sur les vitraux de Gabriel Loire et la chapelle de reliques. Et à 15h30 et 17h, samedi et dimanche, il y aura aussi la visite du musée Saint-Pierre-Fourier. Voilà, parce qu'on a aussi le musée Saint-Pierre-Fourier.
Il est pas loin de la basilique ?
Alors, il est pas loin. C'est à deux pas. C'est l'ancien presbytère, donc il est à deux pas de la basilique.
D'accord. Et puis donc, le concert à 18h aura cette particularité d'être retransmis dans la nef sur un écran.
Tout à fait, tout à fait. Ça va être, c'est une première un petit peu à Matincourt. Et voilà, on va pouvoir vous voir jouer. C'est ça. Non seulement vous entendre, mais vous voir jouer.
Les yeux et les oreilles.
Les yeux et les oreilles. Je trouve que ça va être un beau spectacle. Ouais. On s'en réjouit en tout cas.
Eh bien écoutez, merci pour notre invitation à aller jouer à Matincourt. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis, je vous propose de terminer avec un petit peu de hautbois, le concerto en ré mineur de Marcello, le final.
Merci.
C'était le final du concerto pour hautbois en ré mineur de Marcello dans l'interprétation de Takuya Takashima au hautbois et Kerem Hassan à la direction. C'était le Turku Philharmonique Orchestra.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Bonsoir Mathieu Dussouyer, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Opéra National de Lorraine. Et nous allons évoquer ce soir la nouvelle saison de l'opéra, saison que vous proposez évidemment en lien avec Marta Gardolinska, la chef de l'orchestre, ainsi que tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette programmation. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Alors, dans le préambule du livret de la saison, Bertrand Masson, le président de l'Opéra National de Lorraine et adjoint au maire de Nancy, trace à grands traits la feuille de route qui est la vôtre. Une programmation éclectique dans laquelle les œuvres connues côtoient les découvertes et les surprises. Et tout ceci s'adressant au public les plus larges possibles, des plus jeunes aux moins jeunes.
Oui, tout à fait. C'est l'idée, de, en tout cas, de ce qu'on recherche à l'Opéra National de Lorraine, d'avoir une assise, une base de public qui représente tout le monde, tous les habitants de la ville. Et donc, pour ça, on fait des programmations qui peuvent rencontrer, j'ai envie de dire, les bébés jusqu'à les habitués de l'opéra, en passant par les jeunes, les étudiants. Voilà. Il faut trouver des formats, il faut inventer des choses pour y parvenir.
Et je crois que tous les ans, vous réussissez à inventer des choses nouvelles.
Oui, c'est un peu l'objectif de stimuler la création lyrique, la création musicale, de stimuler aussi nos habitudes et trouver des choses nouvelles à proposer au public pour, encore une fois, trouver des formats qui peuvent s'adapter à tout le monde.
Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, j'aimerais revenir sur votre édito dans le livret, le superbe livret que vous avez fait cette saison, comme les saisons passées d'ailleurs, hein, pour présenter les saisons. Et dans votre édito, vous dites qu'il n'y a pas de thème pour cette saison, mais il y a des fils invisibles grâce auxquels un dialogue est tissé à travers le temps.
Oui, c'est l'idée en tout cas que quand on voyage à la fois en lisant cette saison, mais aussi en participant au spectacle, on puisse trouver des connexions. Quand j'ai fait cette saison, je ne me suis pas imposé une thématique, mais il s'avère qu'il y a des lignes de force qui sont apparues au fur et à mesure et presque de manière instinctive. Lignes de force de la question de la connaissance, notamment, et de comment la connaissance nous permet de résister. Il y a évidemment la question de l'héritage aussi, qui est très présente, puisque quasiment tous les opéras traite d'une manière plus ou moins, je veux dire, directe ou imagée de la question de l'héritage. Tant sur le plan, encore une fois, juridique qu'on connaît, que le plan plus métaphorique. Donc ces fils invisibles, ils se tissent sans même qu'on imagine au départ les faire.
Eh bien écoutez, le premier opéra c'est Idoménée, alors je vous propose d'écouter l'ouverture d'Idoménée.
Thank you.
C'était donc l'ouverture d'Idoménée de Mozart. L'opéra de Mozart sera le premier de la saison à l'Opéra National de Lorraine. C'était la version de Daniel Harding avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Alors, ce premier opéra, il va être proposé dans une version un petit peu particulière.
Oui, puisque voilà, la crise économique inflationniste que nous connaissons nous a contraints, dès 2023, de faire des ajustements de programmation pour pouvoir équilibrer notre budget. Et donc, nous avons dû renoncer à une version complètement scénique, avec un gros décor, etc., d'Idoménée. Pour passer à une version toujours scénique, en fait. À la base, on avait imaginé que ce soit plutôt semi-scénique, mais finalement, c'est scénique, mais avec une économie de moyens, l'utilisation de stocks, de décors, de costumes et un propos dramaturgique extrêmement intéressant, grâce à la créativité d'un jeune metteur en scène qui vient d'ailleurs de gagner un prix européen de la mise en scène à Londres. On fera cette Idoménée avec lui, avec cette économie de moyens et avec seulement deux représentations au lieu de quatre, pour encore une fois des questions de budget. Mais on est très heureux d'ouvrir avec ça parce que c'est une œuvre magnifique, c'est un des plus bels opéras de Mozart. C'est pas forcément le plus connu, mais en même temps, il mérite pas d'être en dessous des chefs-d'œuvre Don Giovanni ou autres. Voilà, ça sera vraiment un beau projet aussi, tant sur le plan scénique.
Alors en fait, toute l'architecture de la saison est basée sur les opéras que vous proposez. Après, tout est décliné à partir de ces opéras. Alors on va peut-être dire quelques mots de chacun d'entre eux. D'abord le Don Pasquale de Donizetti.
Alors voilà, le Don Pasquale, donc quand je parlais de la thématique de l'héritage, là on est typiquement dans l'héritage purement juridique, puisque Don Pasquale décide de se marier avec une jeune prétendante pour priver son neveu de son héritage. Mais il n'aime pas son neveu, donc il décide de lui faire un coup tordu. Et puis en fait, il y a une farce qui se met en place, puisqu'il s'avère qu'il décide de se marier avec la prétendante en fait du neveu, elle lui fait vivre un enfer jusqu'à ce qu'il demande le divorce. Voilà, donc c'est assez drôle, c'est une œuvre très légère, une très belle musique, c'est un sujet très comique, un peu façon théâtre de boulevard, on pourrait dire aujourd'hui, hein. C'est pour les fêtes de fin d'année, voilà, ce Don Pasquale.
Alors après, on change tout à fait d'esprit avec le David et Jonatas de Charpentier.
Marc-Antoine.
Tout à fait. Alors là, si on parle de la question de l'héritage, on est aussi dans quelque chose d'assez bouleversant, puisque David et Jonatas sont des guerriers qui vont finir par s'affronter. Parce que n'étant pas dans le même camp, et pourtant ces guerriers s'aiment. Alors s'aiment, tout est possible à imaginer, hein. Soit s'aiment d'amour, soit s'aiment d'amitié, et il y en a un évidemment qui meurt, et c'est ce choix qu'ils doivent faire en fait entre leur amitié et leur honneur, et ils choisissent l'honneur, mais avec pour l'un un destin funeste et pour l'autre le malheur pour le reste de son existence. Donc c'est pas un sujet drôle, mais c'est une magnifique musique. Charpentier était un de nos génies de la musique française au XVIIIe siècle. Cette œuvre a un caractère tout particulier, tant par l'histoire que par son contexte de création. Ça a été créé dans le lycée Louis le Grand à Paris par des élèves. Comme ça qu'on éduquait l'élite de la nation, en leur faisant jouer du théâtre, de l'opéra. Voilà, tout est réuni, les équipes de création, l'ensemble correspondance, tout est réuni pour faire vraiment de cet magnifique ouvrage une belle fête.
Sébastien Dossé à la direction.
Sébastien Dossé, qui est un de nos grands chef d'orchestre français, notamment spécialiste de ce répertoire, qui est une âme extrêmement généreuse, tant musicalement que dans la vie. C'est vraiment quelqu'un de remarquable. Et puis son ensemble de musiciens qui est sublime aussi. Et puis le plateau de chanteurs qui lui aussi va être royal. Donc je suis très content.
Alors on avance dans le temps avec la création de Haydn.
Alors la création de Haydn, c'est là aussi un des cet ouvrage très connu de Haydn, magnifique œuvre. Et on en a décidé d'en faire, avec le metteur en scène Kivit Bars, une aventure, une expérience, puisque bon, forcément la création raconte la création selon la Bible, hein, donc la Genèse, Dieu créa la terre, etc. Et puis Kevin, le metteur en scène, souhaite lui présenter sur scène l'histoire de la création selon le point de vue scientifique. Et juxtaposer en fait le discours qui sera chanté, donc c'est la Bible qui sera chantée, avec le discours scientifique qui sera joué sur scène par l'intermédiaire de tous les médias qui peuvent exister, le digital, la lumière des logiciels d'intelligence artificielle qui seront intégrés au projet. Et j'ai vu des essais hier. Et c'est assez bluffant, et je pense que ça va être un rendu absolument incroyable. Le public sera aussi amené à participer vraiment à cette expérience immersive, et avoir ce qu'on dit aujourd'hui, une expérience augmentée du spectacle vivant, par l'intermédiaire de différents médias. Et donc je conseille vraiment à tout le monde de venir le voir, parce que tant on peut s'y retrouver, tant sur le plan musical que sur le plan de l'expérience digitale.
Effectivement, ça donne envie. Alors, il y a un faux opéra, Le Lac d'Argent de Kurt Weill.
Oui, alors Le Lac d'Argent, c'est un magnifique opéra qui est en fait un faux opéra, comme vous dites, composé par Kurt Weill, qui mélange cantate, oratorio, théâtre, mélodie populaire allemande des années 30. Voilà, vraiment. Un caractère foisonnant que Kurt Weill a inventé et qui déjà donne le mérite à cette œuvre de la découvrir. Et puis ensuite, ce qui compte aussi beaucoup dans notre logique que j'expliquais tout à l'heure de la transmission, de la connaissance, de la résistance, c'est que c'est une œuvre qui a été créée en 1934, au moment où Hitler devient chancelier. Donc Hitler arrive au pouvoir, l'opéra est joué 17 représentations, et puis est interdit par les nazis, et Kurt Weill doit fuir aux États-Unis, et évidemment il n'y reviendra jamais dans son pays. Voilà, c'est vraiment de ce point de vue-là intéressant. Alors pourquoi ça a été interdit? Tout simplement parce que en fait dans cet opéra, Kurt Weill parle de l'ascension d'un dictateur, de l'ascension de l'autoritarisme. Et en fait, c'est incroyable de voir à quel point il préfigure tout ce qui va se passer après. Évidemment, ça ne plaisait pas à Hitler d'avoir une œuvre comme ça qui soit jouée alors qu'il est chancelier. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait interdit, comme d'ailleurs tout un tas d'autres œuvres, on le sait, et puis ensuite les autodafés qui ont suivi. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant aussi d'un point de vue purement contemporain, parce que c'est un metteur en scène, Erzsan Montag, qui est un trublion de la scène européenne, qui invente une mise en scène absolument incroyable, où il juxtapose des Stormtroopers de Star Wars, le Christ, des personnages, des statues de Winnie l'ourson. Enfin, c'est incroyablement foisonnant, impressionnant, virtuose. C'est tellement virtuose que cette production a gagné le prix européen, la meilleure coproduction européenne, par le syndicat de la critique française. C'était une coproduction donc entre l'Opéra National de Lorraine et Anvers qui a donc présenté les premières représentations, et Nancy qui donc suit au mois d'avril 2024.
Et j'ai vu que donc vous avez eu une récompense pour le Lac d'Argent. Vous en avez eu une aussi pour Man Roux l'an dernier.
Oui, Man Roux, donc la saison 22-23 qui a remporté le Grand Prix de la critique, grâce notamment à cette œuvre que la critique a découvert, qu'elle ne connaissait pas, et qui, grâce à l'alliance d'une force musicale avec un plateau de chanteurs dirigé par notre directrice musicale, une mise en scène bien réglée, très efficace, on a remporté ce Grand Prix de la critique.
Et puis alors, pour revenir à cette saison actuelle, le dernier opéra, Les Capulet et les Montaigu de Bellini.
Exactement, Les Capulet et les Montaigu, magnifique ouvrage de Bellini, magnifique musique qui ressemble finalement, c'est vraiment ce bel canto italien, une musique qui est proche de Verdi aussi, et qui raconte l'histoire des Capulet et des Montaigu, qui se concentre sur donc la fin, en fait, la toute fin de l'histoire de Roméo et Juliette, hein, puisque évidemment c'est tiré de Shakespeare, et qui se concentre vraiment sur la toute fin, qui prend tout l'opéra, et finit évidemment sur la mort des deux amants. C'est sublime, musicalement c'est extrêmement bien raconté, et ça met en avant des chanteurs qui, là aussi, sont des virtuoses. On aura notamment les débuts en France et à Nancy de Yaritza Velis, qui est aujourd'hui une star montante, qui vient de gagner un prix absolument remarquable à Santa Fe aux États-Unis. Et donc, on est très content de ça. En plus, on aura une metteuse en scène, là aussi, dans un univers très pop, très coloré, qui nous promet une vraie expérience émotionnelle. Donc, faut venir aussi voir les Capulet et Montaigu.
Alors, une petite pause musicale avec le final de David et Jonatas. Mathieu Dussouyer, à côté des opéras, il y a toute une saison symphonique dans laquelle on continue le voyage à travers l'Europe entre les époques et les courants artistiques divers. Et chaque concert va avoir une idée directrice. Le premier de ces concerts a comme idée de Vienne à Varsovie.
Oui, exactement. La saison symphonique traverse à la fois les thèmes lyriques, donc on essaye avec Marta Galaniska de s'appuyer et de créer des liens, des connexions. parlais des fils invisibles tout à l'heure. Alors des fois, c'est des fils plus visibles qu'on voit même nous avant de dessiner les programmes. Et puis, il y a aussi les thèmes fils rouges qui traversent là pour le coup toutes les saisons. Il y a cette question du voyage européen dans l'Europe musicale à l'époque de l'Art Nouveau. Il y a cette idée forte aussi du lien avec la Pologne, puisque Marta Gardonitska est polonaise, et puis on sait que Nancy a un lien particulier avec la Pologne grâce à son roi Stanislas. Et puis, d'autres choses qui là aussi sont nous permettent de créer des programmes. Alors de Vienne Varsovie, ben voilà, on est dans ce voyage européen au cœur de l'Europe musicale qui commence, qui est évidemment sa capitale, son épicentre à Vienne, et qui va à Varsovie avec les compositeurs polonais de la fin du 19e siècle, et puis la magnifique symphonie numéro 6 de Beethoven.
Alors le concert suivant s'intitule Poésie céleste.
Oui, Poésie céleste, puisque en fait, on a un programme écrit autour de Mahler. Mahler qui avait un rapport au céleste, aux anges, assez fort, aussi avec sa femme. Et donc, c'est vraiment un programme autour d'eux, avec la symphonie numéro 4 de Mahler. Et puis, les leaders écrites par Alma Mahler, sa femme, qui sont orchestrées par un chef d'orchestre qui a été orchestré un peu plus tard, mais qui sont sublimes et qui seront chantées donc par la soprano Hélène Carpentier, qui donc chantera les leaders et chantera donc avec orchestre et la symphonie numéro 4, sachant que le quatrième mouvement de cette symphonie inclut donc une soprano.
Alors, le programme suivant, c'est la petite messe solennelle de Rossini.
Alors ça, c'est pour mettre en avant notre cœur, petit bijou de Rossini sur la fin de sa vie, qui écrit cette petite messe, qui est certes une œuvre spirituelle, mais avec tout le caractère, j'ai envie de dire, léger, doux, que Rossini pouvait faire.
Et ça sera dirigé par Guillaume Fauchère.
Oui, Guillaume Fauchère, notre chef de chœur, qui donc va prendre la direction de ce programme, avec donc qui inclut donc un chœur, un piano, un accordéon, voilà. Et donc c'est tout à fait intéressant de découvrir cette petite messe si vous ne la connaissez pas.
Accordéon ou harmonium ?
Ça dépend. En fait, on utilise harmonium ou accordéon, mais comme les harmoniums manquent un peu de stabilité d'un point de vue de l'accord, ouais. Eh bien, on utilise l'accordéon.
D'accord. Ah, je ne connaissais pas cette subtilité. Alors, le programme suivant est un peu plus chargé, on va dire, qui s'intitule « Résistance ».
Oui, c'est un programme, là, pour le coup, qui est vraiment en lien avec le lac d'argent de Courtweil et qui met en avant des compositeurs qui ont écrit en temps de guerre, et notamment, ou en tout cas en rapport avec la guerre, soit parce qu'ils ont été enfermés, comme Pavel Haas dans des camps, soit parce qu'ils ont été touchés par la guerre, soit parce qu'ils vivent la guerre en ce moment même. C'est le cas de la compositrice ukrainienne qui fait partie de ce programme. Voilà, donc on a voulu parler de la musique au travers aussi de la guerre, et que la musique continue, même en temps de guerre.
Ensuite, on s'échappe un petit peu et on retrouve le thème de la mer.
Thème de la mer, avec la mer de Debussy et avec une vraie thématique autour de ça. La mer se suffit à elle-même presque, hein, dans un programme. Mais toujours, Martha voulait absolument diriger la mer avec notre orchestre. Et donc, c'est l'occasion d'aller un peu vers l'Italie, ou en tout cas vers une image un peu plus ensoleillée, même si la mer peut être aussi contrariée, mais disons que la mer, ça fait rêver, pour voyager et finir avec Capulet et Montaigu de Bellini.
Et on restera dans le soleil avec le dernier thème, Espagne.
Voilà, on est en face de l'Italie, toujours au moment de Capulet et Montaigu. On n'est pas vraiment à Vérone, mais on va en Espagne avec, avec ce programme qui propose notamment le concerto d'Aranjuez de Rodrigo, qui est un programme pour guitare qui est très 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 connu. Voilà, et d'autres choses de Faya, notamment le Tricorne, qui est une magnifique suite pour orchestre. Voilà, un programme symphonique ensoleillé pour terminer cette saison.
Bien, alors on va faire une petite pause et on va écouter la fameuse étude pour orchestre de Pavel Haas.
Thank you.
Alors, à côté de ces deux blocs que constituent la saison d'opéra et la saison symphonique, vous proposez une multitude de choses qu'on retrouve dans le livret ou, je suppose, sur le site de l'opéra. Et on va peut-être s'arrêter juste sur quelques-unes, notamment peut-être la série qui s'appelle Fantasy, puisqu'elle apparaît sur les affiches de la programmation.
Bien, on parlait tout à l'heure des projets qu'on pouvait développer pour aller chercher tous les publics. Eh bien, Fantasy, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire de mixer ce que nous avons fait avec d'autres genres, avec d'autres idées, pour proposer quelque chose de ludique, de sérieux et en même temps qui s'ouvre à toutes et tous et qui peut parler à tout le monde. Et c'est comme ça que, par exemple, on va développer un bingo musical où les gens seront amenés à venir faire un loto en même temps qu'ils vont vivre un concert avec trois jeunes chanteurs déjantés. C'est comme ça qu'on fait un concert Halloween où plein de choses vont se passer. C'est comme ça qu'on va faire venir le jeune chien Paco, les littératures jeunesse, sur scène pour un concert autour de lui où Paco va décider de s'installer aux États-Unis, de déménager aux États-Unis, de prendre en charge les enfants et toutes les familles avec ce jeune Paco qui est quand même vraiment très connu dans la littérature jeunesse. C'est comme ça qu'on développe Opéra Berceau, c'est comme ça qu'on, pour les bébés, c'est comme ça qu'on développe tout un tas de formats qui nous permettent de toucher d'autres publics.
Et puis alors, il y a le projet citoyen.
Exactement, le projet de l'Opéra de Nancy, c'est que c'est un opéra classique, j'ai envie de dire, mais c'est aussi un opéra citoyen, parce qu'il offre tout un tas d'opportunités pour développer une saison d'éducation artistique et culturelle, une saison aussi qui met en avant les gens du territoire faisant devenir artistes des non-professionnels l'espace d'un spectacle avec qui on crée. C'est comme ça que, par exemple, cette saison, nous allons travailler avec des personnes en situation d'handicap, de réadaptation physique, avec notre partenariat avec le CHU et l'IRR, l'Institut Régional de Réadaptation, pour amener des personnes en situation de handicap sur scène, jouer, chanter, avec les artistes professionnels de notre maison, mélanger artistes professionnels et artistes non professionnels pour créer des spectacles. C'est comme ça aussi qu'on fait venir des enfants devenir artistes le temps d'une création. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire aussi en dehors avec notre travail sur le territoire d'éducation artistique et culturelle, de tourner notre orchestre qui va jouer dans les classes, notre équipe du service pédagogique qui forme des enseignants pour former ensuite les élèves et qu'ils puissent venir à l'opéra. Il y a une multitude de projets qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre site, dans nos bilans, qui nous montrent que l'Opéra National de Lorraine est un projet d'opéra ancré dans la cité et qui s'adresse à toutes et tous.
Et puis alors, vous mettez en avant un petit peu certains de vos musiciens avec un salon des artistes.
Alors, le Salon des artistes, c'est l'occasion pour les artistes de la maison, qu'ils soient musiciens, choristes, pianistes, l'occasion de s'exprimer et de proposer des programmes en tant que chambristes, concertistes, chanteurs, en solo ou à plusieurs, et que ce soit eux qui décident de ce qu'ils proposent au public. Et donc c'est ces moments conviviaux à différents moments de la journée, que ce soit l'apéritif, que ce soit l'heure du thé ou même la dégustation de vin le soir ou le lunch aussi le midi, et bien de rencontrer les artistes de la maison pour un moment de musique de chambre et un moment ensuite de partage autour d'un verre ou d'un thé ou d'un café.
Voilà, et ce partage autour d'un verre, on peut aussi le retrouver dans le dîner de gala que vous organisez.
Dîner de gala, exactement, l'occasion pour les gens à la fois de soutenir l'opéra, mais surtout aussi, enfin, et aussi de venir vivre une expérience exceptionnelle sur scène, puisque ce dîner de gala, c'est l'occasion de dîner dans un lieu insolite, de dîner sur une scène d'opéra avec la salle, mais aussi avec les artistes qui vont vous entourer, et de dîner avec un dîner gastronomique préparé par un restaurateur gastronomique. Donc c'est une super occasion de passer une soirée insolite et de soutenir en même temps une belle cause.
Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. On en oublierait presque que vous réussissez à offrir cette saison, malgré un contexte tendu financièrement, probablement au moins autant que l'année dernière.
Plus tendu même que l'année dernière, et puis aussi tendu, voire moins que l'année prochaine, on verra. C'est vrai que la culture, comme tout un tas d'autres entreprises et d'autres secteurs, hein, souffre de l'inflation qui est très, très forte, et en même temps, les moyens et les recettes n'évoluent pas aussi vite que les dépenses. Donc ça pose un problème.
Eh bien, écoutez, Mathieu, merci. Pour terminer, je pense que vous vous associerez à ces propos de Bertrand Masson. Quel que soit votre âge ou vos passions, tentez l'opéra.
Ah oui, c'est sûr, et venez comme vous êtes, surtout.
On va terminer avec quelque chose de réconfortant, la danse finale du Tricorne de Manuel de Falla. We'll be right back.
Voilà, c'était le final du Tricorne de Manuel Defaya. Quelques informations sur les journées du patrimoine. À l'église Saint-Léon, samedi de 14 à 18h, présentation du mobilier valin, du grand orgue et récital d'orgue. Dimanche de 15 à 18h, la même chose. À Domgermain, samedi à 14h, présentation de l'orgue, à 17h, concert de Dominique Dantan. Et puis ce samedi, donc je vous rappelle à Matincourt, le concert que je ferai au bois et orgue à 18h. Et à 16h, dimanche 17, dans l'église de Plainfin, donc toujours dans les Vosges, j'aurai le plaisir d'être avec le flûtiste de Pan Michel Tirabousco pour un récital. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Pierre pour la technique. À très bientôt.